Bonjour. Vous avez, comme moi, remarqué que le XXIe siècle nous propose des moyens de communication qui sont incroyables et qui sont illimités. Alors pour ce matin, j'ai préparé une vidéo que je vous invite à suivre. J'ai demandé à l'intelligence artificielle une synthèse sur le thème de la divinité de Jésus-Christ dans l'Épître aux Colossiens. Après 2 secondes, on me propose ce texte que je copie. J'ouvre mon application pour envoyer des mails. Je mets mon nom, un objet. Je copie le texte que l'intelligence artificielle m'a donné. J'envoie. Et j'aurais pu envoyer en même temps à des centaines de personnes. Ça n'aurait pas pris beaucoup plus de temps. Et puis, l'ordinateur mouline à quelques instants. Et tout à coup, ça fait... Bing. Le texte est arrivé. La vidéo dure 30 secondes.
Alors, je disais que les moyens de communication sont illimités, sont incroyables, et il faudrait ajouter, ça se passe à une vitesse vertigineuse. Quel contraste avec les textes de la Bible et le tableau qui va être affiché. Rembrandt, en 1627, s'imaginait l'apôtre Paul en prison, en train d'écrire les lettres de la captivité dans l'Épître aux Colossiens. Quel contraste entre l'intelligence artificielle, la rapidité, la vitesse, tout ce qui était, et ce tableau. On y trouve un apôtre qui dégage une sérénité, un calme. Ce qui peut surprendre, c'est que dans sa prison, il y a une épée. Vous voyez, sur la gauche. On ne sait pas si le peintre veut faire allusion à la persécution ou si le peintre veut faire allusion à cette épée de la parole de Dieu dont parle l'Épître aux Hébreux et aux Éphésiens. L'apôtre Paul est éclairé. C'est une lumière qui n'est pas en lui, mais qui vient de l'extérieur. Il y a un calme qui est là, une réflexion, une méditation, pas de précipitation. Et avant tout, quand on regarde ce tableau, c'est qu'il y a une attente, un espoir que Dieu lui parle. Alors le peintre s'imaginait l'apôtre Paul en train d'écrire l'Épître aux Colossiens de cette façon-là. Je ne sais pas comment il aurait fait pour illustrer les auditeurs et les lecteurs de l'Épître aux Colossiens. J'aime bien cette citation qui nous dit que si Jésus revenait aujourd'hui, ce n'est pas les paralytiques qu'il ferait marcher, parce que ça, la médecine aujourd'hui arrive à le faire, mais il ferait marcher ceux qui courent. Et il faudrait un miracle pour nous ralentir. Parce que un de nos défis, c'est que cette rapidité des moyens de communication, nous les mettons également dans notre relation avec Dieu. Pressé, manque de temps, toute chose à penser, on fait des connexions, bien sûr on prie, mais très souvent on est déjà à autre chose. Et surtout après, quand on ouvre la parole de Dieu, ça fait boum, on a fait la lecture et on passe à autre chose. Peut-être si Dieu a mis autant de temps pour faire écrire sa parole, il nous faudrait plus de temps pour la lire et pour la méditer. Comme je disais, l'apôtre Paul est en prison. Il écrit l'Épître aux Philippiens, aux Éphésiens, à Philémon et Colossiens. Et comme vous pouvez vous imaginer, ça prenait du temps pour écrire. Ensuite, ça prenait du temps pour prendre l'Épître, pour parcourir des centaines de kilomètres pour l'apporter dans les églises. Et pourtant, Dieu avait choisi cette époque-là pour que son Fils vienne dans ce monde et pour que les apôtres écrivent les évangiles, le livre des Actes, les Épîtres et l'Apocalypse. Je me dis, Dieu, il aurait très bien pu attendre 2000 ans de plus. On n'était pas à quelques années de près. Et alors là, on aurait tout de suite eu tout sur les réseaux, tout très rapidement dans le monde entier. Ben non. Dieu avait choisi une autre époque pour accomplir la venue du Messie et l'écriture du Nouveau Testament. Nous terminons aujourd'hui avec l'Épître aux Colossiens, cet appel à être enraciné, fondé, affermi en Jésus-Christ. À l'époque, le Nouveau Testament s'écrivait en grec, et là vous avez un de ces papyrus qui sont à notre disposition. Ça, c'était l'écriture du Nouveau Testament. Pour économiser de la place, on ne mettait pas d'intervalle entre les mots. Alors, imaginez-vous ce que ça devait être pour lire. Mais forcément, ça ralentissait la lecture. Ça obligeait le lecteur à être attentif pour chaque mot. En plus, ça montrait aussi que chaque mot avait son importance. Aujourd'hui, nous avons l'habitude d'écrire, copier, on efface, on recommence. Ben, à l'époque, non, chaque mot avait sa place, chaque paragraphe dans ses épîtres avec une importance particulière. Il en est de même à la fin de l'Épître aux Colossiens. Nous trouvons tout au long de cet épître l'exposition de la divinité, de la majesté, de la souveraineté, de la toute-puissance, de la toute-suffisance de Jésus-Christ. Et l'exhortation à nous laisser saisir par l'œuvre de Jésus pour vivre une foi qui honore et qui glorifie Dieu, notamment dans les relations au sein de l'Église et au sein de la société. Et à la fin de l'Épître aux Colossiens, nous trouvons ce qu'on appelle les salutations. Alors aujourd'hui, on se dit, tiens, c'est pour faire beau, pour être gentil, autre. Mais je reviens à l'importance de chaque mot. Et là, quand on dit que l'apôtre Paul a fait des salutations, ce n'est pas simplement pour la forme, mais pour donner à chaque mot une place particulière. Vous avez ici tous les noms qui vont être cités dans la lecture suivante, et j'aimerais inviter des personnes à chaque fois à lire une page.
Compagnon de détention, Ben, Thomas, cousin de Barnaba, et j'ai le peuple de l'instruction, et chez vous, de tout bon accord. Jésus, appelé Justus, salut aussi, parmi les circoncis et seuls, travaille avec moi pour le royaume de Dieu. C'est un grand croisement.
Des vôtres, dans les pères de Jésus-Christ, cesse combattre pour vous, afin que vous teniez bon, comme des hommes purs, tellement disposés à faire toute la volonté. Je lui rends en effet ce témoignage. Je dépense sans compter pour vous, pour ceux de la Odyssée.
Luc, le médecin. Bien-aimé, vous salue ainsi que des mots.
Que cette lettre aura été lue chez vous. fais en sorte que la vie soit aussi dans l'église de Laodice. Dis à votre tour cette vie de Laodice. Fais l'archi, fais Jésus. Fais sur le service de Dieu, dans le Seigneur, afin de bien l'avoir.
Salut, moi.
Nous avons dans cette liste Tychique et Onésime, qui sont avec l'apôtre Paul à Rome. Et l'apôtre Paul va les envoyer à Colosse. Nous avons, pour la suite, Marc, Aristarque et Jésus Justus. Ils sont également avec Paul à Rome. Ils vont rester avec l'apôtre et les trois sont d'origine juive. Ensuite, il est aussi question d'Épaphras et d'Onésime qui sont avec Paul à Rome, mais les deux sont originaires de l'église de Colosse. Épaphras va rester avec Paul à Rome, Onésime va donc accompagner Tychique pour le voyage pour apporter l'épître. Tychique, de lui, il nous est dit qu'il est un frère bien-aimé, un serviteur fidèle, un compagnon de service dans le Seigneur. Et dans les textes qui sont affichés dans le livre des Actes, dans Éphésiens, dans 2 Timothée et dans Tite, nous voyons d'autres mentions de cet homme et à quel point il avait fait des preuves et à quel point l'apôtre Paul l'appréciait. Par rapport à Onésime, il nous est dit qu'il est un frère bien-aimé et c'est tout l'épître à Philémon qui parle d'Onésime, qui était un esclave qui s'était enfui et qui va retourner chez son maître à Colosse. De Aristarque, il est dit qu'il est un compagnon de détention, donc celui qui partage probablement le plus de temps avec Paul à Rome. On fait mention de lui également dans les deux textes dans Actes 19 et Actes 27. Puis nous avons Luc. Celui qui a écrit l'évangile de Luc, le livre des Actes, et c'est dans ce passage ici que nous découvrons qu'il est médecin, un médecin bien aimé. Et puis il est question de Démas, sans autre précision, et c'est l'épître à Timothée qui nous dit que Démas, à un moment donné, après tout un temps passé avec l'apôtre Paul, va faire le choix de quitter non seulement Paul, mais de quitter la foi pour retourner dans le monde. Il est question d'Épaphras, serviteur apprécié de Jésus-Christ, et on pense que c'est lui l'évangéliste, le fondateur de l'église de Colosse. Et puis nous découvrons Archippe, les chrétiens de Laodicée. Et nous découvrons aussi Nymphas ou Néphas, selon la prononciation, est l'église qui se trouve dans sa maison. Là, nous voyons les personnes qui vont recevoir l'épître aux Colossiens. Et dans les salutations, l'apôtre Paul veut que les deux groupes se rencontrent dans les salutations, justement, qu'il dit. Ça vaut la peine d'écrire, de lire et de méditer ces versets. Il y a ceux qui sont envoyés, un rôle pratique, vont voyager pour apporter l'épître. Il y a ceux qui sont considérés comme encourageurs. Il était un grand encouragement pour moi. Il y a ceux qui sont intercesseurs, qui prient. Il y a les compagnons de route, il y a les frères et sœurs en Christ, avec qui on peut simplement être et on est accepté, on est accueilli, on est aimé. Et puis, il est aussi question des responsables. Alors là, on trouve, nous disent les commentateurs, l'équipe missionnaire qui accompagnait l'apôtre Paul. Très souvent, on parle de Paul, le missionnaire, l'évangéliste, ses écrits. Dans ses salutations, nous découvrons qu'il n'était pas seul. Qu'il était entouré, non seulement entouré, il était soutenu, encouragé, aidé par toutes sortes de personnes qui sont avec lui, chacun avec ce qu'il est, chacun avec la mission que Dieu lui confie, et ensemble, l'œuvre missionnaire est possible. Ceux qui portent la lettre, qui vont donner des nouvelles et qui vont recevoir des nouvelles pour les apporter à l'apôtre Paul, être un grand encouragement pour le prisonnier, servir, prier, un travail en équipe. Chacun trouve sa place avec la mission qui lui est confiée et le Seigneur demande à chacun fidélité, humilité et persévérance au-delà du statut social. Parce que dans ces personnes, il y a un esclave et il y a des maîtres. Au-delà de l'organisation familiale où il y a des époux, des épouses, des enfants, au-delà des cultures et des origines, il y a des chrétiens d'origine juive, il y a des chrétiens d'origine non-juive. Dans ce royaume de Dieu qui se construit, nous avons besoin les uns des autres. Et c'était pareil pour l'apôtre Paul. Et nous découvrons dans ce texte aussi les églises de maison et un travail en réseau entre trois églises. Parce qu'il est question de l'église de Colosse, mais aussi d'Hierapolis et de Laodicée. Et il fallait que les lettres circulent, et c'est toujours porté par des personnes, que des nouvelles, les informations, les sujets de prière se communiquent pour qu'on puisse ensemble exprimer l'intérêt fraternel, la communion fraternelle, l'amour fraternel. Et tous ensemble, entre ces églises, entre Paul et son équipe à Rome, tous ensemble, il y a une seule mission qui leur est confiée, travailler pour le royaume de Dieu. Que le règne de Dieu vienne et que sa volonté soit faite. S'intéresser aux autres. Demander des nouvelles et donner des nouvelles. On voit dans ce texte une réciprocité. Et parfois, c'est pour moi plus facile de demander des nouvelles, sujets de prière, que d'en donner moi-même. Parce qu'on se livre quelque part en demandant de prier pour tel et tel sujet. Mais c'était ainsi que ça se vivait du temps de l'apôtre Paul. Et j'aimerais que nous puissions terminer cette épître aux Colossiens avec cette parole si simple et si profonde, que la grâce soit avec vous. Ces quelques mots ont un sens et ont une place dans l'épître, et c'est bien plus qu'une forme de politesse ou une expression coutumière pour terminer une lettre. Rappelons-nous encore une fois, chaque mot comptait. Et là, l'apôtre Paul a été conduit par Dieu et par son amour fraternel à écrire « Que la grâce soit avec vous ». Tout au début de l'épître, dans le verset 2, le premier chapitre, il est déjà question de la grâce. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. » Dans le même chapitre, le verset 7, il est dit que les chrétiens de Colosse, un jour, avaient entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. C'est une grâce de Dieu qui s'est manifestée dans le don de son Fils Jésus-Christ. Jésus qui est venu dans ce monde. Cet acte salvateur décisif de Dieu qui donne son Fils. Et Jésus qui donne sa vie. Jésus-Christ, dans sa venue sur terre et sa mort à la croix, exprime pleinement et parfaitement l'amour et la justice de Dieu. Quelle grâce! Parce que celui qui mérite la condamnation de Dieu, il est justifié, il est réconcilié avec Dieu, il est aimé et adopté par Dieu. Pourquoi ? Par la grâce. Christ qui a tout accompli, c'est cette première manifestation de la grâce. Dieu se donne. Et cette grâce ensuite, elle prend vie dans la vie du croyant. Cette grâce de Dieu qui nous est donnée. Et c'est dans l'épître aux Romains, dans le chapitre 3, où elle s'exprime. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoigna la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. La grâce du don de Jésus-Christ et la grâce de Dieu quand ce don de Jésus-Christ devient pardon et vie nouvelle pour moi. C'est la grâce de Dieu qui donne la nouvelle naissance. Toute la vie chrétienne, de son commencement jusqu'à son aboutissement, dépend toujours et encore de cette grâce, de cette miséricorde de Dieu. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Nous dit Colossiens 1, les versets 13 et 14. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Miséricorde, don, amour, grâce de Dieu. Nous pouvons demander et recevoir la grâce de Dieu. Par contre, nous ne pouvons pas la produire. Elle est don de Dieu. Le don gratuit de Jésus, du salut, du pardon, cette bienveillance et la miséricorde d'un Dieu qui est juste et trois fois saint. La grâce seule, pour le salut, mais aussi la grâce toute suffisante pour vivre. Quand Dieu dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit », cette grâce suffit pour le pardon, et ma grâce suffit pour vivre la foi chrétienne, aussi dans les épreuves et dans l'adversité. C'est une grâce toute suffisante. Jusqu'au bout, jusqu'à ce que le Maître nous dise « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Maître. » Ça sera encore la troisième manifestation de la grâce. Quand le moment sera venu pour quitter cette terre, c'est l'accueil du Seigneur par sa grâce en Jésus-Christ. Un commentateur écrit que Dieu ne nous permet pas de stocker la grâce. Nous devons nous tourner vers lui chaque jour pour recevoir une nouvelle provision. Et nous voilà alors dans le cœur de l'Épître aux Colossiens, où l'Église subit une forte pression d'une hérésie qui promet une vie spirituelle plus profonde avec une connaissance mystique et secrète. L'apôtre Paul dit non, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Et tout l'Épître aux Colossiens est un appel, certes, à dénoncer les hérésies, mais ça ne suffit pas. L'Épître aux Colossiens est un appel vibrant à recentrer notre vie sur Jésus-Christ. Nous avons ce cantique « En Jésus seul ». Et un autre cantique qui dit « Christ seul me suffit, tout ce dont j'ai besoin est en lui, pour le salut, pour la vie aujourd'hui, pour servir le Seigneur et pour une espérance certaine de la vie éternelle. Alors que la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ nous accompagne, nous rassure et nous fortifie, demain, le quotidien, les joies et les peines, les tentations, les victoires et les chutes. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que cette grâce de Dieu nous conduise aussi dans notre amour pour le prochain. Et j'aimerais vous laisser ces paroles pour cette semaine. Tu peux nous les afficher, juste la grâce, c'est une proclamation est en même temps une prière que je fais pour vous. Que vous allez retourner au travail demain, que vous serez avec les enfants, que vous allez accueillir 10 personnes, être seul, profiter des vacances. Notre vie dépend de cette grâce de Dieu, toujours à nouveau. Et j'aimerais faire cette proclamation et cette prière, tout spécialement aussi pour Mélodie, pour qui c'est aujourd'hui son dernier culte. Elle va prendre l'avion mercredi matin, pour s'envoler au Japon. Donc pour ces 2 années d'apprentissage de la langue, que ce soit pour toi, que ce soit pour nous tous, la prière, que la grâce soit avec nous. Ça suffit pour vivre et pour mourir. Parce que c'est une grâce. Et Jésus-Christ est en Jésus-Christ. Amen. Thank you.